avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, nous donnons la parole justement à une voisine de passage à Paris qui vit en Côte d'Ivoire. Bonjour Yasmine Ajami.
Oui, bonjour.
On est ravis de vous accueillir.
Merci.
Les voisins, les voisines vous connaissent bien à Abidjan, pas forcément personnellement d'ailleurs. Oui. Vous êtes française, d'origine libanaise par votre père, oui. Née au Cameroun, arrivée en Côte d'Ivoire à l'âge de 4 ans.
Effectivement.
Vous avez grandi, comme beaucoup de familles libanaises, dans le petit Beyrouth, c'est-à-dire le quartier de Marcory. Et vous avez été la seconde épouse d'un homme d'affaires célèbre, décédé prématurément. Et vous avez décidé d'écrire et de publier votre histoire, Seconde épouse, aux éditions Michalon. Vous en avez tiré plusieurs leçons de vie, je dirais, qui pourraient bien intéresser quelques voisines et voisins. C'est pour ça qu'on vous a invité. Je précise que votre livre n'est absolument pas un réquisitoire contre la polygamie.
Hein. Absolument.
C'est plus complexe. Et en fin d'émission, on aura un tout autre sujet. Vous resterez avec nous, j'espère. On parlera d'alimentation dans le sillage de la COP21. Et puis des interrogations sur l'utilité de manger toujours autant de viande. On aura un reportage dans une boucherie végétarienne. C'est un nouveau concept qui a peut-être de l'avenir. Yasmine Ajami, j'ai résumé votre vie, votre enfance, évidemment très rapidement, mais rien ne vous prédestinait finalement à devenir la deuxième épouse d'un Ivoirien d'origine libanaise, si ce n'est que vous êtes vous aussi d'origine libanaise.
Effectivement, rien ne me prédestinait parce que j'ai pas été éduquée dans ce sens-là. Je peux comprendre tout ce qui est autour de la culture, la religion orientale, mais j'ai eu une éducation plutôt occidentale. J'étais au lycée français, j'ai beaucoup voyagé.
Donc, pour vos études, surtout.
Pour mes études. Pour
mais vous êtes vraiment une enfant du continent africain.
Tout à fait. Tout à fait. Mon cœur est africain. Donc,
Alors, comment vous avez grandi? Que vous disait votre père pendant votre enfance?
De toujours être...
Sur la place d'une femme.
Très indépendante. Il m'a toujours dit, Yasmine... protège-toi, on sait jamais si tu as un mari qui te bat ou je sais pas pourquoi il me disait ça, il faut que tu puisses te débrouiller par toi-même. C'était vraiment son message, j'entendais très souvent ça à la maison. Donc quand j'ai grandi avec le fait qu'il fallait absolument que je sois indépendante, que je me subvienne à moi-même et que je ne dépende de personne financièrement. Je pense que aujourd'hui ça m'a servi parce que dans mon histoire j'ai eu les moyens de me défendre.
Vous avez grandi dans cette communauté libanaise, comme tant d'autres en Afrique, une communauté qui est tout de même très soudée en même temps.
Oui,
hein, faut tout le à dire, fait. Surtout avec la dureté des événements dans certains pays comme la Côte d'Ivoire.
Hein. Tout à fait, oui. C'est une communauté qui est très soudée, qui peut être, par contre, je l'avais déjà dit dans un interview, mais où il y a quand même pas mal de clivages religieux. Donc, on distingue bien la communauté libanaise musulmane et chrétienne, ça, quand même, il faut le dire.
Vous êtes les deux, par votre père
voilà,
et par
donc,
votre mère.
Voilà, donc moi, ça reste très, très ambigu, donc voilà.
Vous avez été mariée, un premier mariage, divorcée, un fils d'un premier mariage, d'un Européen d'ailleurs, avec qui vous êtes resté en bon terme, le divorce, tout ça, ça s'est bien passé. Il est resté vivre en Côte d'Ivoire, lui aussi. Vous avez étudié en France, vous avez très vite su que vous alliez devenir une femme d'affaires.
En fait, déjà depuis l'âge de 12 ans, je savais plus ou moins ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire une prépa, HEC, je voulais être dans les élites. Mon père était très fier de moi. Et puis, on a toujours baigné dans le commerce. J'entendais toujours mes parents parler de trade, d'avaliser, d'import, d'export.
Oui. Donc, votre table, père et votre mère travaillaient beaucoup.
Exactement. Ouais. Donc, on baignait dedans. Mmh. Et mon père avait fait l'école des cadres à Paris. Donc, on était tous école de commerce.
C'est ça. Donc, vous n'avez pas fait HEC, mais vous avez fait une école de commerce, vous avez voyagé. Et puis, vous avez eu envie, très vite, en fait, tout de suite, de rentrer en Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai fini vite mes études, à 22 ans. Donc, j'ai fait mon cursus, je fais un bac plus 4. Et puis, je suis rentrée pour les vacances. Et moi, j'avais envie de vite travailler. Mmh. J'avais envie de, d'être indépendante, de gagner ma vie, etc. Donc, et j'ai vite... c'est pas moi qui ai cherché particulièrement, mais mon CV a été distribué.
Alors, bien sûr, la liberté d'entreprendre aussi. Hein, oui. Quand on a la fibre entrepreneur comme vous l'aviez, la liberté d'entreprendre et le continent africain, ça fait aussi souvent bon ménage.
Oui. Très, très bon ménage. Ouais. Je dois dire que...
Et en même temps, quand même, en filigrane de vos histoires familiales difficiles, il y a toute la trame de la Côte d'Ivoire, tous les drames de la Côte d'Ivoire, les années de partition entre le Nord et le Sud, les épisodes d'agression envers la communauté libanaise, la crise post-électorale, et toutes ces années pendant lesquelles le business, votre business, vous avez monté une entreprise de communication, de publicité, tout ça continue.
Oui, tout ça continue.
Avec une femme à sa tête, c'est-à-dire vous.
Oui. Tout à fait. Oui, j'ai même pendant cette période-là, j'ai monté trois sociétés. Premièrement, une société de publicité, puis après la régie, puis après le restaurant. Effectivement, quand j'ai monté en 2003, on me disait mais tu es folle. Comment tu peux monter une entreprise en pleine crise? Moi, j'y croyais. Je croyais en la Côte d'Ivoire. J'avais pas peur.
Le monde des affaires, même quand on a envie de faire des affaires, c'est un milieu d'hommes en Côte d'Ivoire et ailleurs, à l'image des conditions de vie dans ce pays. Donc, des affaires qui sont... C'est un monde dur, c'est un monde violent. Une femme d'affaires, seule, comme vous l'avez été pendant plusieurs années, à la suite de votre premier divorce, c'est ce qui vous a forgé aussi ce caractère de lutte.
Oui, il faut se battre tous les jours, il faut être déterminé, même si j'ai un côté très humain, mais il faut vraiment avoir un caractère de fer.
Comment vous avez rencontré votre second mari, d'abord dans des circonstances professionnelles, celui qui allait devenir votre second mari, et alors c'était votre seul mari, bien sûr, mais vous alliez devenir la seconde épouse.
Oui. Effectivement, oui, je m'attendais
pas. Comment ça s'est passé, cette rencontre?
Comme vous avez dit, de manière professionnelle, bon, au départ, je l'ai rencontré, lors d'un événementiel. Je pense que pour lui, enfin, il me l'a dit des années plus tard, dès qu'il m'a vu, ça a été effectivement le coup de foudre. Mais bon, j'étais pas encore divorcée, etc. C'est à peu près 4 ans après qu'il s'est déclaré. Mmh. Moi, ma situation aussi conjugale avait changé.
Mmh. Alors, la sienne ne s'était pas éclaircie, hein. Il a toujours été marié avec une première épouse, un mariage arrangé.
Oui.
Il faut préciser que cet homme-là, dont vous ne citez pas le nom dans votre livre pour des raisons juridiques, c'est un homme public en Côte d'Ivoire. Oui. Ibrahim Ezzedine, patron d'entreprise dans l'agroalimentaire, libanais arrivé en Côte d'Ivoire à 18 ans et donc décédé prématurément à 45 ans, vous laissant veuve. Il s'était marié jeune à une adolescente, mariage arrangé, comme ça se fait beaucoup, y compris dans la communauté libanaise.
Oui, ça se fait beaucoup. Mais moi, j'étais à l'âge de 16 ans, j'étais déjà sollicitée, mais moi, j'ai jamais voulu... Je voulais faire mes études, j'ai jamais voulu accepter.
Solliciter, c'est-à-dire quand on dit placer des options, c'est ça?
On va dire, voilà, il y a eu peut-être des familles qui avaient effectivement rencontré peut-être mon père pour voir à l'âge de 18 ans. En fait, les femmes se marient très jeunes. Mmh. Si vous dépassez les 25, là, ça, c'est un peu problématique.
Cet homme-là, Ibrahim Ezzedine, homme d'affaires, musulman, profondément pratiquant, très pratiquant. Mmh. Dans le fond, si il n'avait pas eu la pression du clan pour un premier mariage arrangé, pas un mariage d'amour, est-ce que cet homme-là aurait lui aussi été finalement programmé pour la polygamie?
Non.
On le sent finalement profondément monogame avec un seul amour, c'est-à-dire vous, non?
Ou
c'est vous qui racontez ça de cette
façon-là? Non, lui me disait, il a eu à me dire pourquoi je t'ai pas connu avant, pourquoi je t'ai pas connu plus tôt. C'est un amour profond et ça se calcule pas. Il aurait jamais lui-même pensé être polygame, mais dans sa famille apparemment ses frères sont polygames, tout ça, donc enfin c'est des mœurs.
Et vous avez senti venir le piège vers vous? Vous saviez, durant toutes ces années de relations non officielles avec lui, de relations profondément amoureuses, vous saviez qu'il était marié, qu'il ne divorcerait pas?
Pas vraiment, c'est-à-dire que déjà j'avais l'ignorance d'un mariage civil, et puis il n'en parlait jamais, donc c'était comme si c'était effacé. Il ne se montrait jamais en public, c'était comme si c'était une autre vie... effacée.
Ouais, vous allez nous raconter, Yasmine Ajami, comment vous vous êtes retrouvée seconde épouse, alors que rien ne vous prédestinait à être la deuxième épouse dans un mariage polygame. Je précise que la polygamie, d'ailleurs, n'est pas autorisée par le code civil en Côte d'Ivoire, mais évidemment, elle est largement pratiquée dans le cadre de mariages coutumiers.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Amadeus Wife, chez 7 milliards de voisins. Nous sommes en compagnie de Yasmine Ajami qui publie Seconde épouse. Vous nous le racontiez en début d'émission, Yasmine Ajami. Vous êtes une franco-libanaise ivoirienne. Je ne sais pas ce qu'il faut dire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a sur vous? Vous avez combien de passeports finalement?
Non, j'ai qu'un seul passeport. Je suis française d'origine.
Le passeport
d'origine,
français. Oui. Hein. Et donc, vous avez vécu une grande histoire d'amour avec un homme qui était déjà marié et qui, un personnage public en Côte d'Ivoire, hein, Ibrahim Ezzedine, à la tête d'un grand groupe d'agroalimentaire que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Comment finalement s'est pris tout d'un coup cette décision de devenir officiellement son épouse, c'est-à-dire sa deuxième épouse?
En fait, il y avait... disons que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne programme pas. C'était un homme quand même très religieux, très pratiquant, donc qui n'était pas à l'aise dans l'adultère. Donc il fallait, à un moment donné, il a décidé qu'il fallait officialiser, qu'il fallait se marier. Et moi, je l'ai suivi. Bon, d'autant plus que le mariage est autorisé au Liban, donc c'est un mariage qui est légal. Vous êtes dans le registre d'état civil comme son livret de famille. Tout ça, je l'ai appris après le décès, hein, puisque après j'ai dû m'intéresser à la procédure.
À Abidjan, vous passez devant le Cher, en fait.
Oui, à Abidjan, je passe devant le Cher. Les papiers sont pris à l'ambassade du Liban, sont déclarés, vont au Liban pour que vous soyez dans l'état civil, de registre familial, voilà. L'état civil.
Puisque vous ne pouvez pas l'être dans l'état civil ivoirien.
Je ne savais pas, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait forcément un premier mariage civil. Donc, on parlait de mariage civil à l'ambassade de France. Le premier réflexe, peut-être comme on est d'origine libanaise, donc on est allé chez le Cher. C'est un acte assez important. Vous savez qu'au Liban, on ne peut pas se marier si ce n'est pas religieux. Donc c'est le mariage religieux qui prime.
Pas de mariage civil.
Il n'y a pas de mariage civil. C'est soit vous êtes chrétien, soit vous êtes musulman. Vous faites un mariage religieux et après vous êtes dans le registre d'état civil de votre mari.
Vous vous souvenez de ce jour précis? Parce que c'est en étant octobre 2011.
Oui, il y avait beaucoup de tensions. C'était une période très très bousculée. On était à la limite il y avait eu peut-être le premier tour des élections. La Côte d'Ivoire était vraiment.
On était en pleine crise.
En pleine crise. Oui, en pleine crise. il y avait beaucoup de pression et lui avait beaucoup de pression, d'autant plus que il avait ses affaires en première ligne et qu'on faisait aussi beaucoup d'amalgame. Enfin, on lui prêtait le nom souvent de l'ancien président, etc.
Donc voilà. Gbagbo.
Oui. Donc voilà.
Parce que les affaires ne sont jamais neutres. Voilà. Il était en Côte d'Ivoire comme ailleurs, c'est ça.
Bon, c'est un homme d'affaires, donc comme il me le disait, Yasmine, si le président m'appelle pour faire des commandes, je dois y aller, que soit tel ou tel président.
Alors c'est étonnant parce que vous avez donc été mariée en Côte d'Ivoire sur un rite de mariage coutumier, mariée à un homme extrêmement puissant économiquement, puissant socialement, au sein de son clan libanais, mais au sein du pays aussi. Et en même temps, vous en faites le récit d'un homme qui est décédé depuis, d'où votre drame, mais d'un homme qui est complètement piégé lui-même par les conflits conjugaux et la gestion de ces deux foyers, en fait.
Oui, effectivement, il arrivait plus à gérer les deux foyers parce que bon, d'un côté, il y avait énormément de pression, de chantage vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que la première épouse, par exemple, il a eu à me raconter qu'elle voulait pas que les enfants lui parlent ou que, enfin, c'était vraiment très difficile. Pas parce que il en avait une deuxième qui était moi, donc c'était compliqué. Donc c'était beaucoup de chantage.
Pour le
faire céder. On voulait pas qu'il soit avec moi. Moi, j'étais un peu l'étrangère. Je ne suis pas pratquante comme eux. Je suis pas voilée.
Mais justement, la première épouse étant très pratiquante. Kant aurait dû complètement accepter la situation.
Elle était
de polygamie, non ?
Préparée, puisque c'est dans leurs mœurs, c'est que bon, dans leur famille, apparemment, effectivement, il y a des polygames. Et puis religieusement. Donc, il y a la tolérance zéro. Il y avait une tolérance. Alors moi, qui ne suis pas justement éduquée dans ce sens-là, c'était plutôt...
Bien que vous soyez d'un père musulman, libanais,
bien que je
sois
dans un père musulman, mais c'était modéré. Mon père a toujours été modéré. Mais par contre, c'est la tolérance chez moi. C'est-à-dire, non, je veux pas qu'ils divorcent parce qu'à cause des enfants, ils vont souffrir. Donc c'était beaucoup plus la tolérance de mon côté.
Vous lui avez aussi mis beaucoup la pression, forcément. Vous étiez jalouse.
Vu qu'il me mettait dans un milieu... où il fallait suivre les lois, entre guillemets, islamiques, j'ai estimé qu'il devait faire son devoir et qu'il devait appliquer ces lois coraniques.
Mais quand vous apprenez que la première épouse est de nouveau enceinte, par le candidat-on, dans un salon de coiffure, c'est quoi ? C'est un coup de poignard ?
Oui, c'est un choc. C'est un choc parce qu'il n'avait pas osé m'en parler.
Vous vivez une histoire d'amour aussi avec lui, qui est sincère.
Exactement. Et donc, après, il a dû m'en parler par la force des choses.
Et puis, il y a eu la vengeance. Vous-même, vous avez donné naissance à une petite fille.
Oui, mais c'était pas du tout. C'était un bébé désiré, donc par amour. C'est pas du tout une vengeance du tout. Puis, elle est arrivée. J'avais même oublié. Donc, elle est arrivée. À pic, voilà.
Le jour de la mort de votre époux, à la morgue, au moment où vous avez envie de le serrer dans vos bras une dernière fois, vous avez compris que la suite allait être compliquée judiciairement pour vous en tant que veuve en Afrique.
C'était terrible ce jour-là. C'était un jour très noir. Et à la morgue, effectivement, on m'interdisait de pleurer, de même de le prendre, de le serrer. Non, c'était
ça, c'est la tradition.
Un peu poussé quand même, un peu poussé. C'était quand même non. C'était un jour très difficile.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ?
Écoutez, à ce moment-là, j'étais perdue. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça peut pas être vrai. Et c'est pour ça que je suis partie à la morgue, parce qu'il fallait que je le voie devant moi.
Il est mort d'un arrêt cardiaque, d'une crise cardiaque, à 45 ans.
Oui, c'est ce qui a été dit.
Restez avec nous, Yasmine Ajami. Beaucoup de femmes peuvent se reconnaître dans votre histoire, avant tout peut-être en tant que veuve. C'est le récit de conflits familiaux avec en toile de fond le poids des traditions. C'est vrai, mais aussi surtout beaucoup des intérêts financiers importants. Parce qu'une femme veuve mariée sous le régime de la polygamie ou de la monogamie, d'ailleurs, n'est guère protégée, mais plutôt souvent, pas toujours, mais souvent précipitée dans l'abîme du veuvage. On va parler de votre combat judiciaire juste après le flash, au nom de votre petite fille qui est née donc de votre mariage en seconde épouse, qui s'appelle cette petite fille
Eva,
qui a quel âge aujourd'hui ?
Elle a 4 ans.
7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes juste après le flash. Restez avec nous.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens
avec... On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Dialogue aujourd'hui avec une femme multiculturelle, amoureuse et seconde épouse, et puis au cœur d'un feuilleton judiciaire, au cœur de la Côte d'Ivoire, aux multiples facettes. C'est un peu votre histoire, c'est votre histoire, Yasmine Ajami. Vous publiez « Seconde épouse », vous êtes une femme d'affaires, arrivée très jeune en Côte d'Ivoire, vous êtes née au Cameroun d'un père libanais, musulman, d'une mère française catholique, vous avez un passeport français. Et mais comme vous le disiez en première partie d'émission, vous êtes aussi profondément libano-africaine. Hein. Oui. D'ailleurs, vous n'avez jamais songé à vous installer en France. Vous avez brièvement vécu en France pour vos études, mais c'est tout. Hein.
Oui, c'est ça.
Alors, vous nous avez raconté en première partie d'émission comment vous êtes tombée éperdument amoureuse. Et d'ailleurs, c'était une relation parfaitement symétrique d'un homme qui était lui-même très amoureux de vous. Un homme d'affaires influent en Côte d'Ivoire, Ibrahim Ezzedine, qui est mort prématurément à 45 ans d'une crise cardiaque. Vous aviez accepté de l'épouser en tant que seconde épouse, car il n'était pas prévu qu'il divorce. Vous n'étiez pas programmé pour cela. Vous avez vécu bon an, mal an, comme cela, avec de nombreuses scènes de ménage, d'autres scènes de ménage du côté de son premier foyer aussi. Vous nous avez raconté comment finalement il avait été, c'est un homme qui a été pris en étau, contre sa volonté, parce que c'est un homme qui n'avait pas envie de faire du mal aux femmes avec qui il vivait. Et s'en est suivi, après son décès, des années, c'est-à-dire 4 ans, maintenant, depuis sa mort, des années de bataille judiciaire. Pourquoi donc ? Expliquez-nous.
4 jours après le décès, j'ai compris que ça allait pas être facile pour moi de préserver mes droits et les droits de ma fille, surtout. Mmh. Et donc, c'est comme ça, quand il y a des enjeux économiques, de gros intérêts économiques... Que ça a commencé.
Alors expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire. Alors, je sais que c'est difficile parce que vous devez avoir des montagnes de dossiers judiciaires chez vous.
Vous savez, quand quelqu'un décède et qu'il y a des questions d'héritage, ça devient très compliqué. Étant la deuxième épouse, on ne voulait absolument pas que j'aie effectivement quoi que ce soit. Et ma fille, on pouvait pas l'effacer. Mais quand même, il y a eu, même pas un mois après son décès, j'ai reçu une convocation pour annuler la paternité de ma fille, malgré qu'elle soit déclarée effectivement au Liban, officiellement, enfin en France, donc elle porte le nom de son père. Et moi, j'ai eu une annulation de mariage post-mortem aussi au Liban.
C'est donc, possible ça?
Apparemment, c'est pas vraiment possible, mais bon, je veux dire, dans la religion aussi musulmane.
Alors vous étiez mariée civilement au Liban, puisque enfin il y a pas de mariage civil, il y a que du mariage religieux. Et mais en Côte d'Ivoire, vous étiez mariée donc de façon coutumière.
Voilà,
exactement. Il n'y a pas de polygamie officielle civile. En Côte d'Ivoire. Mmh. Et alors finalement, cette bataille judiciaire, c'était pour vous enlever quoi exactement?
Ben pour que la petite soit complètement déshéritée et qu'elle puisse pas avoir accès à ses droits.
Contrairement aux autres enfants.
Contrairement aux autres enfants, mais bon, c'est la première épouse a signé une procuration générale et absolue de tout vendre, de tout et a donné la puissance paternelle aux oncles et moi j'ai refusé.
C'est ce qu'on demande en général à l'épouse veuve, c'est-à-dire que ce sont les frères qui prennent le pouvoir sur les enfants.
Peut-être au Liban, mais moi je raisonne pas comme ça et sinon j'aurais plus vu ma fille.
Comment vous avez vécu ces 4 années et comment vous les vivez encore? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ça a été très difficile. C'est-à-dire que après le décès, c'était comme si j'étais bannie de la société. Ils ont tout fait pour m'éliminer socialement, on va dire. Déjà effacer le nom de ma fille, donc ça veut dire effacer l'histoire d'Ibrahim, effacer le mariage, effacer tous ses choix. Le problème, c'est que je m'opposais à chaque fois que je me défendais en tant que femme, et ça, c'était insupportable. Pour eux, qui voient la femme comme il faut rester à la maison, faut obéir, faut rester tranquille, parce que moi on me passait des messages en disant qu'elle reste tranquille. Du fait que je me défendais.
Vous étiez toujours à la tête de vos entreprises.
J'étais toujours à la tête de mes entreprises. Bon, à un moment donné, même ils se sont imaginés que mon mari avait aussi des parts. Ils ont fait l'inventaire même pas 3 semaines après le décès. Mais voilà, moi j'étais pas dans l'acceptation, donc ça gênait énormément. Et même avec ce livre encore, ça va.
Alors, il y a eu des avocats internationaux, des avocats ivoiriens, français qui ont défilé, la justice ivoirienne qui a été saisie, plusieurs procès, c'est cela?
Il y a eu trois justices, on va dire, qui ont été saisies. J'ai eu une dizaine d'avocats. Bon, au départ, j'étais pas très bien guidée. Vous imaginez, un mois après le décès, vous devez prendre vos armes, vous devez vous lever, vous devez vous défendre, vous devez, on vous dit qu'on peut annuler une paternité, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le père a déclaré sa fille partout, donc comment on peut annuler une paternité? Donc vous découvrez, mais qu'est-ce que c'est, de quoi on me parle? Après, effectivement, on me parle d'une loi ivoirienne du fait de sa double nationalité, qu'il aurait contracté un mariage civil que j'ai découvert après sa mort. Enfin, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais pas du tout orientée, donc je suis partie avec une avocate, et puis bon, qui me disait de toute façon, la petite elle est française, elle est libanaise, elle est déclarée, donc on peut pas annuler. Et finalement, bah si, donc, mais ça a été une bataille vraiment très importante. En premier instant, je me suis ramassée, puis après, j'ai commencé à me construire, mais c'était évidemment, ça faisait deux mois après le décès, donc j'ai même pas eu le temps, on dit 40 jours pour que le corps chez les musulmans s'élève. Mais j'ai pas eu ce temps-là, il fallait être au front.
Aujourd'hui, tout le monde, tout Abidjan connaît votre histoire.
Hein. Oui.
Vous avez fait l'objet de commérages, de débats sans fin dans les salons de coiffure. Vous le racontez. Hein,
c'était insupportable.
Le feuilleton à Jamy, c'est ça qu'il
faudrait
dire.
Oui, c'est ça. Le feuilleton à Jamy, effectivement, c'était insupportable.
Ou Ezedine, je ne sais pas. Oui.
Puisque bon, aussi, on avait une part de vérité que d'un côté. Bon, moi, je suis une femme, vous savez, assez. Bon, on me connaît. Plus professionnelle, je suis bien établie
avec des sociétés de communication, de publicité, un restaurant.
Donc ma vie, on va dire, je suis assez discrète sur quand même ma vie privée. J'aime pas tout ce qui est commérage et tout, mais à un moment donné, il fallait que les gens sachent ce qui se passait parce que bon, c'était d'autres vérités qui étaient dites, c'était énormément de diffamation.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis moi se parler, moi se dire la vérité.
Yasmine Ajami, vous publiez Seconde épouse. Ça s'appelle Seconde épouse, mais en réalité, c'est pas un réquisitoire contre la polygamie.
Non. Au départ, j'ai écrit, ce livre, c'était une lettre à ma fille. Parce que j'étais, à un moment donné, j'ai eu tellement peur que je me suis dit, Yasmine, si tu es plus là, il faut que Eva, elle sache. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle soit au courant.
Elle a 4 ans aujourd'hui.
Oui, et ça passe vite. Et je me suis dit, si je suis pas là, qu'il fallait laisser des écrits. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et à écrire aussi tous les thèmes, en fait.
Mais tout le monde va vous reprocher d'avoir écrit un livre contre la polygamie, en réalité.
C'est pas un livre contre la polygamie, c'est juste une expérience, je dirais, que j'ai vécue. Du fait que, bon, dans cette expérience-là, malgré que je me sois pliée aux lois, à ces lois, qui devaient protéger mon enfant, ça ne l'a pas été. Et c'est contraire même à tout ce qu'on peut imaginer religieusement, hein, parce que... Après, il y a eu des conflits entre imams. Il y a eu, mon histoire, ça a été vraiment un peu un scandale, hein, parce que certains imams étaient pour, les autres contre. Enfin, c'était un fait de société. Les voisines aussi se disputaient à mon sujet. Ceux qui prenaient ma défense, d'autres n'étaient pas contents. Enfin, c'était quand même lourd à porter.
On sent durant toutes ces années que finalement, vous ne savez pas toujours à quelle culture vous appartenez, orientale, africaine, occidentale. Vous avez été éperdument amoureuse d'un homme extrêmement pratiquant, musulman. Oui. Vous l'avez aussi aimé pour ça, d'ailleurs.
Moi, j'imaginais même pas, et même du côté de la famille de mon père, vu que j'étais, on va dire, la fille très moderne, très occidentale, très, très en avant, très avant-gardiste. Et ils m'ont dit, mais c'est pas, tu peux pas être avec un Hajj. J'ai dit,
Hajj, c'est-à-dire?
Hajj, un homme, voilà.
Celui qui a fait le pèlerinage.
Voilà, il a fait 10 pèlerinages, au moins, hein, dans sa vie. Donc, mais c'est comme ça. C'est l'amour, quoi.
Et alors?
Et on s'entendait, on avait une connexion, parfaite. Donc, en fait, qu'il soit Hajj ou musulman ou chrétien ou peu importe, c'était, la personne avec qui, je m'entendais réellement. l'un vis-à-vis de l'autre, chacun se soutenait à sa manière. Il avait, en tant qu'homme d'affaires très important, il avait besoin de quelqu'un qui se confie ou avoir quelques conseils.
Vous avez peu demandé dans ce feuilleton judiciaire à rebondissement et qui n'est pas terminé, vous avez peu demandé le soutien de la France alors que vous avez la nationalité française, votre fille a la nationalité française. Pourquoi cela ?
Non, en fait, au départ, j'étais vraiment perdue parce que bon, ça se passait, j'étais attaquée sur Abidjan, donc ça se passait sur Abidjan. Et puis après, j'étais attaquée au Liban pour d'autres raisons. Donc,
vous avez peu de liens avec la France
donc,
en réalité.
Si, j'ai quand même, je venais tout le temps sur Paris, étant jeune. Ma mère avait quand même gardé des liens. Et mes parents sont mariés à Neuilly et tout, donc on a quand même des liens assez forts avec la France. Mais vous savez, quand vous êtes dans un combat juridique, vous savez pas très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous conseille pas. C'est très difficile d'avoir les bons choix et après d'agir et agir au bon moment. Il y a tous ces facteurs là.
Aujourd'hui, ou plutôt demain, vous continuez de vivre dans la prochaine étape judiciaire?
Oui, toujours de se dire bon, qu'est-ce qui va se passer, même avec ce livre, qu'est-ce qui va se passer encore? Se sentir toujours pas totalement en sécurité. Mais bon, ce livre, je le prends un peu comme une grâce. Beaucoup de gens cherchent à être édités, mais n'ont pas la chance. Moi, j'ai fait des écrits et j'ai été édité. Je ne pensais pas non plus qu'un jour j'allais écrire un livre. Je pense que ça peut aider beaucoup de femmes. Et ça a été écrit dans ce but-là. Parce que moi, j'ai été perdue. Je pense que quand les femmes auront besoin de juste d'un coup de téléphone ou d'une aide ou d'une information, je pense que c'est important.
Alors,
d'être là.
Au-delà de l'imbroglio juridique, quels conseils vous donneriez à des femmes qui vivent une histoire d'amour semblable? Parce que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris du recul depuis.
Moi, j'ai pas de conseils vraiment à donner. C'est juste, comme je disais, une expérience que j'ai vécue. S'il fallait le refaire, je le referais pas parce que c'est trop de sacrifices et ce que j'ai vécu après ne mérite pas. Donner des conseils, non, c'est mal.
En tout cas, vous en avez tiré une grande sagesse sur le mariage, sur l'importance de l'appartenance à un clan, sur le poids de la famille. Ce ne sont pas d'ailleurs forcément des poids négatifs, mais il faut savoir se faire accepter par l'autre clan, l'autre famille.
Oui, j'ai beaucoup appris. Effectivement, la famille a un rôle très important, surtout dans la famille orientale. La famille est très présente. Si vous n'êtes pas tout à fait accepté, il faut que l'homme soit très très fort pour pouvoir vous imposer.
Mais comment se fait-il, en ayant grandi en Afrique, en étant de père libanais, comment se fait-il que vous ayez cru finalement qu'une histoire d'amour qui a, on va dire, concrètement démarré d'ailleurs au cœur de la capitale française, d'un voyage touristique en amoureux, que vous ayez cru que cette histoire-là, vous alliez rester tous les deux amoureux seuls au monde?
Là, c'est ça l'amour. On n'explique pas. C'était seul au monde, exactement. On calcule pas. Il y avait pas tout ça entre nous, donc.
Mais il y avait une famille de part et d'autre.
Mais quand bien même, ça veut dire vous avez les ailes, vous avez la force. Donc, et lui, il a cru, mais dur comme fer.
Vous avez rencontré des femmes.
Lui, il s'est dit, ça va passer. Oh, il fait des crises, mais ça va passer. D'ailleurs, il me disait, mes frères, maintenant, on parle même plus. Il me disait toujours, sois patiente. Je dis oui, mais à un moment donné, quand bébé est venu, la patience, voilà.
Mais toutes les guerres ont une fin, tout de même, hein. Y compris les guerres familiales.
Espérons.
Vous avez cherché à entrer en contact avec la première épouse, à parler entre femmes,
moi,
parce
au départ,
qu'elle a souffert, elle aussi.
Oui, je respecte sa souffrance. J'ai essayé, effectivement, d'une fois de la contacter, mais ça a été catastrophique, donc... En fait, j'ai essayé de la contacter pour soulager Ibrahim.
Finalement, mais vous en voulez aux hommes du clan ou aux femmes?
C'est une bonne question. C'est pas pour les mêmes raisons, puisque les hommes ont une responsabilité. Les femmes, c'est plutôt de la vengeance, donc c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice en Côte d'Ivoire, au Liban?
Juste à ce jour, la justice ivoirienne, j'ai arrêté toute procédure parce que c'était pas nécessaire, c'est pas le bon timing. Peut-être que si Eva peut reprendre, entre guillemets, sa place, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est surtout son identité qui m'importe. Bon, pour eux, j'ai entendu le frère dire de toute façon, on a annulé sa nationalité. Bon, c'est comme si c'était quelque chose de banal. Mais pour moi, c'est une identité, c'est l'identité d'un enfant. C'est pas acceptable.
Merci Yasmine Ajami. Vous publiez donc Seconde épouse, c'est à lire aux éditions Michalon. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ?
Oui, oui, absolument.
Dans le sillage de la COP21, nous allons nous rendre très bientôt, dans quelques minutes, dans une boucherie végétarienne. C'est pas un gag, et vous nous direz ce que vous en pensez, vous qui êtes une femme d'affaires et qui sentez les tendances. Ça sera juste après Love Song, Shishani. Love is priceless. Oh, whenever I'm wrong, you take me in your arms and show me the right way to go. You got a heart of gold, set to never return of life. You've got a freedom of mind, and with you that peace I find. Now where to start? We're telling you how much your love has touched my heart. How wonderful you are. I love you. See, I prayed for you and there were no questions asked and no answers. We just fell in love. And I love the way we fight sometimes, but we always try to make it right. And ooh, it's priceless. So hold me tight, please don't let go. I wrote the song to let you know I love what you're doing to me.
And it's so much pressure to live by your letter and return what you're giving to me. And how could I when I'm looking up to you? Like, can I be the star that fell from the heavens and then landed in your heart? Oh God, let me put together broken parts and we can paint this picture and continue with our art. And if I never land on the canvas like Doug, do please know wherever I go, I love you, love you, love you, love you.
And I want you to know
milliards de voisins sur RFI.
allons-nous tous finir végétariens? Eh bien, en tout cas, c'est le pari que font Philippe Comte et Isabelle Ben-Simon. C'est un couple qui a ouvert à Paris, au printemps dernier, dans le 12e arrondissement, une boucherie végétarienne. Oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire qu'on trouve sur place, en vente, ou à emporter, des escalopes de poulet, du bœuf haché, et même des saucisses de Francfort. Alors, tout ça est écrit, en fait, entre guillemets, hein, sur les étiquettes. Oui, je vous vois très intriguée, oui. Yasmine Ajami. Parce qu'évidemment, aucun de ces produits ne contient de viande, alors qu'ils en ont l'aspect, en principe le goût. Notre reporter Charlie Dupio peut en attester. Elle s'est glissée derrière le comptoir à l'heure des premiers clients et elle a goûté.
Je regardais ce que vous aviez, que j'aurais pu transformer, moi, dans une recette classique.
Par exemple, vous pouvez prendre des filets de poulet, faire des escalopes à la crème avec. C'est du simili poulet. Ça ressemble au poulet, mais ça n'en est pas. Il y a de l'amidon, de la pomme de terre, du maïs, du soja. C'est un semblant.
La viande végétarienne a une histoire récente. Elle a commencé en Afrique du Sud, je crois 2007-2008. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a une grande communauté hindouiste qui ne peut pas manger de viande. Ensuite, la Californie a développé très fortement la viande végétarienne. Et en Europe, aux Pays-Bas, un peu en Allemagne, un peu au Portugal, il y a aussi un début de distribution de viande végétarienne. Mais en France, nous sommes les premiers. Et nous sommes convaincus que d'ici 10 à 15 ans, tout le monde en mangera. Pourquoi nous en sommes convaincus ? Parce que nous n'avons pas le choix. Il faut réduire la part des produits carnés dans notre assiette. Le méthane, le protoxyde d'azote sont bien plus réchauffants que le CO2 et ils sont produits par les animaux d'élevage.
Seulement 2 ou 3% des Français sont végétariens. Quelle est votre cible ? Beaucoup, j'imagine, quand même de bobos, de bourgeois bohèmes.
Bien entendu, nous nous adressons aux flexitariens qui, sans vouloir absolument éliminer totalement la consommation de viande, eh bien veulent la réduire. Et eux, je crois, représentent 24% de la population française. Et ils vont devenir légion. Aujourd'hui, les gens ne sont pas encore prêts à remplacer leur filet de poulet par des sauterelles. Il faut leur proposer une alternative avec ce même goût et cette même consistance.
Comment vous faites pour vous procurer ces produits-là ?
Alors, nous sommes remontés à la source, aux Pays-Bas, auprès de la seule unité de production qui les fabrique. En Europe, il n'y en a qu'un seul.
Combien coûte en fait, donc là par exemple, deux escalopes de poulet ?
Alors là par exemple, on est à 3,90 pour du 200 grammes, donc on est à 19 euros le kilo. Ce qui correspond grosso modo au prix de la viande.
Deux paquets de nuggets, c'est ça, et deux paquets de cordon bleu, s'il vous plaît.
C'est la première fois que vous venez ici ?
C'est la première fois que je viens ici. Je consomme de la viande à peu près une fois par semaine. C'est pas le simili viande qui m'attire, c'est juste avoir la possibilité de manger bêtement un repas végétarien qui soit pas simplement une salade crudité, quoi.
C'est un vrai paiement à s'écouler, ça ?
Ouais.
Alors, vous êtes végétarien ?
Végétalien. Végétalien, c'est qu'on mange pas d'animaux et ni de produits animaux. C'est-à-dire pas de lait, pas d'œufs. Produire de la viande, c'est déjà l'industrie qui pollue la plus au monde, et celle qui prend le plus de ressources aussi. Donc avec des populations mondiales croissantes, on ne pourra pas tous manger de la viande comme c'est fait dans le monde occidental.
Pourquoi venir rechercher quelque chose qui se rapproche de la viande ici ?
Bah justement parce que moi, quand je cuisine, moi, pour moi, je cherche pas du tout quelque chose comme ça. Après, que ça soit repris comme une mode, pourquoi pas ? De toute façon, si c'est une bonne mode, autant la suivre, hein. C'est intéressant, mais ça n'est pas la solution, de toute façon. Ce qu'on appelle les produits simili, pas besoin de transformer les légumes en quelque chose qui ressemble à de la viande. Puisque de toute façon, on mange du légume, donc autant le manger directement. C'est l'avenir, hein, de toute façon. L'avenir sera végétarien, au moins, ou végétalien, ou ne sera pas.
Voilà, donc cette boucherie végétarienne dans le 12e arrondissement à Paris a ouvert ses portes depuis le printemps dernier. Et je précise aussi, Yasmine Ajami, que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a classé la viande rouge comme cancérogène probable pour l'homme. Alors vous êtes quoi ? D'abord, vous êtes une femme d'affaires avisée. Alors est-ce que c'est une bonne idée pour vous ou pas dans l'air du temps ? Est-ce que voilà. Ça viendrait jusqu'à Abidjan ?
Je sais pas si ça viendrait pour Abidjan, mais il en faut pour tous les goûts, hein, je pense. Donc c'est des niche markets, comme on dit chez nous. Hein, si on veut.
Vous êtes une mangeuse de viande, vous?
Moi, je suis une carnivore, oui.
Ah oui.
Je suis mangeuse
de viande. Donc pas du tout une flexitarienne.
Ah non,
même
pas du tout. Pas du tout. Donc, bon, le corps humain, il est, voilà, on a besoin de protéines. Donc, on a des muscles, on a le sang. Donc, après, c'est selon les, je pense que ça convient par rapport aux croyances religieuses et tout ça. Donc, les bouddhistes, ceux qui peuvent pas manger de viande, les convictions. Donc, c'est très bien qu'on arrive à faire des produits, similaire, mais je pense pas que ça puisse remplacer.
Alors, l'avantage, hein, c'est qu'il n'y aurait plus de débat avec le porc dans les cantines scolaires en France. Je sais pas si vous
c'est
avez
sûr.
Suivi ces affaires-là dans la presse française.
C'est sûr,
mais
c'est sûr.
La viande, finalement, c'est parfois aussi au cœur de débats religieux.
Oui.
Bon, enfin, voilà. Donc, pour vous, c'est pas pour demain. Hein.
Non, non.
Arrête la viande. Bon. Merci à vous, Yasmine Ajami, d'être passée par le studio des 7 milliards de voisins. On vous souhaite un bon retour à Abidjan. Je rappelle que vous publiez Seconde épouse, votre histoire, qui n'est pas terminée, aux éditions Michalon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci infiniment.
Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Mathieu Salabert. Et pour toutes vos réactions, vous savez que vous pouvez toujours nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Vos réactions, évidemment, bien sûr, sur les réseaux sociaux, la page Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. Et puis, vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions à la carte, en podcast, sur rfi.fr, à la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des mariages précoces. Avec le rapport de l'UNICEF sorti il y a quelques jours, si rien n'est fait, le nombre de mariages d'enfants pourrait doubler d'ici 2050 en Afrique, qui deviendrait alors le premier continent touché par ce problème. Au-delà des effets sur la santé des grossesses trop jeunes, nous verrons aussi en quoi les mariages d'enfants constituent un vrai frein au développement pour ces familles. À demain les voisins.
Découvrez en images la Tour Eiffel sous tous les angles.